Chapitre 17. C'était l'habitude que le dimanche après le déjeuner, Turlure et Médéric fissent une promenade aux environs d'Oisselles. Avec l'équipement du botaniste, de l'entomologiste, du géologue, la boîte d'herborisation au dos, le marteau à la main, aux reins une musette garnie de flacons et d'albums, les pieds chaussés de forts souliers, les jambes serrées dans des guêtres, ils partaient en expédition scientifique. Ainsi harnaché, le pharmacien était superbe. Et à le voir, on pouvait être assuré que la nature n'aurait pas de secret pour lui. La Rochefoulon lui livrerait le Muscari neglectum ou l'Orchis odoratissima. Les roches d'Orival, le Myrmédonia bituberculata, si rare dans la faune normande, et peut-être même le Phosphenus rougetti, plus rare encore. De même que les briqueteries des Essarts pourraient lui fournir, dans leur argile, quelques outils préhistoriques intéressants, quelques ustensiles de l'époque moustérienne. Pour ce dimanche-là, il avait été convenu, dès le mardi, qu'il traverserait la rivière et monterait sur la côte de Saint-Adrien, du haut de laquelle se déroule l'un des plus beaux panoramas de la Normandie, sur la boucle que forme la Seine d'Elbeuf à la Bouille et que ferme dans le lointain vaporeux la noire forêt de la Londe. Sans doute la vue de ce paysage entrait pour une part dans le choix de cette excursion, mais ce que Turlure voulait avant tout, c'était de montrer à son jeune ami la Viola rotomagensis, cette pensée d'un bleu si fin qui, sur son sol natal et dans la terre crayeuse de ses coteaux, forme de si jolis tapis. Malgré le plaisir qu'il se promettait de cette promenade, il était évident qu'il fallait la sacrifier. Avant tout, les affaires. Dans l'état fiévreux où le jetait son enquête, il n'aurait ni la liberté d'esprit, ni le recueillement nécessaire pour guider son jeune ami et le mettre en présence d'un champ de Viola rotomagensis. La botanique est une maîtresse exigeante qui ne peut pas faire commerce avec l'instruction criminelle. Dans ces circonstances, il convenait donc d'avertir Médéric, et pour cela, il se rendit chez Madame Artaud afin de s'excuser de vive voix, ce qui serait plus convenable que par lettre. Il trouva Madame Artaud dans sa salle à manger, dont la table était couverte de boîtes de conserve, de bouteilles, de fruits qu'elle était en train d'emballer et de placer dans des paniers. « Mon fils allait justement vous écrire, » dit-elle. « Est-ce que vous partez en voyage ?»« Simplement en partie de campagne. Nous allons déjeuner dans une île avec Madame la Vaupalière. Cela vient de s'arranger à l'instant même et Médéric est en train de s'habiller pendant que j'emballe les victuailles. » Pardonnez-lui de vous manquer de parole. Nous n'avons pas pu refuser la proposition de Madame la Vaupalière. Elle a une si triste existence, la pauvre petite femme, qu'il faut la distraire en attendant qu'un rapprochement se produise entre elle et son mari. Vous comptez sur ce rapprochement? C'est mon espoir. Quel mari n'a pas de caprices qui ne sont que des feux de paille? Médéric, en surgissant dans la salle à manger, les interrompit. « Eh bien, maman, y sommes-nous ? » ?»« Ah, pardon, mon cher monsieur Turlure, je ne vous voyais pas. J'allais vous écrire. Impossible de vous accompagner à Saint-Adrien. Excusez-moi. » Il ne tenait pas en place. La joie rayonnait dans ses yeux. Comme il voulait aider sa mère, elle l'arrêta. « Laisse, lui dit-elle, tu te salirais et ce serait dommage. » En effet, c'eût été dommage, car il avait fait une fraîche toilette qui n'était pas celle d'un travail de ce genre. Costume de flanelle claire, chemise de soie bleue, dont le col rabattait sur un foulard blanc, chaussettes de soie multicolores, souliers vernis. Et à le voir si jeune, si joyeux, si gentil garçon, Turlure était pris d'une pensée de tristesse. Cette journée dont il se promettait tant de bonheur serait la dernière qu'il passerait avec cette femme aimée. Quel souvenir lui laisserait-elle? N'était-ce pas horrible, vraiment, que cet enfant eût donné son cœur à cette femme? De quel poids ne pèserait pas sur sa vie entière cet amour? Ce fut sous cette impression qu'il revint, distrait pour un moment de ses recherches. Mais après son déjeuner, il les reprit. Puisque Madame la Vaupalière se promenait en bateau et la Vaupalière à Paris, pourquoi ne profiterait-il pas de leur absence pour visiter la maison? Dans l'après-midi, l'étude était fermée. Les bonnes seraient seules. Il n'y avait qu'à inventer un prétexte pour aller leur parler. Il sortit de chez lui sans l'avoir trouvée et descendit sur le quai. Comme il passait devant le notariat, il vit les deux bonnes installées pour jouir de leur journée de repos, en regardant le mouvement de la rivière et des promeneurs. Alors il s'approcha d'elle et demanda à Divine si elle avait déjà pris quelques cuillerées de sa potion. Puis la conversation s'engagea et il ne tarda pas à manœuvrer de façon à entrer dans la maison pour jeter un coup d'œil sur les casseroles de cuivre. « Vous pouvez les regarder, » dit Célanie, « je crains rien. » Après les avoir examinées, il déclara qu'en effet, elles étaient les plus brillantes qu'il eût jamais vues. Puis, tout aussi adroitement, il se fit inviter à visiter les chambres. Là, son examen fut plus long, plus minutieux. Mais tout d'abord, il ne trouva rien pour expliquer les malaises de Divine. Ses chambres ressemblaient à beaucoup d'autres. Leur seul point caractéristique, si toutefois c'en était un, consistait dans leurs tentures et leurs rideaux en étoffe de coton, à ramage, d'une belle couleur verte. Cependant, à la longue, cette étoffe s'imposa à son attention, et il ne pensa plus qu'à en obtenir un échantillon pour l'analyser. « Qui a fourni cette étoffe ? » demanda-t-il d'un air aussi ingénu que possible. « Un tapissier de Rouen. Elle est bien jolie, et Madame la Vaupalière a eu très bon goût. C'est monsieur qui l'a choisie. Je voudrais bien faire comme lui et offrir l'appareil à Madame Turlure. Est-ce qu'il en reste des morceaux ?»« J'en ai, » dit Célanie, « et je peux vous en donner un. Vous me ferez plaisir. » Pendant qu'elle était sortie, il s'approcha d'une table sous laquelle se trouvaient des chaussures, celles de la Vaupalière, en ramassa une et la regarda d'un air indifférent, mais en l'examinant au contraire avec attention, en prenant sa mesure des yeux. Aussitôt qu'il eut ce morceau d'étoffe, il rentra chez lui à pas pressés, répondant à peine au salut que la population endimanchée lui adressait au passage, et il s'enferma dans son laboratoire, après avoir donné ordre qu'on ne le dérangeât sous aucun prétexte. L'expérience qui lui avait révélé que dans les vomissements de Divine se trouvait de l'arsenite de cuivre pouvait être maintenant complétée. Et la question à résoudre était de savoir si cette étoffe verte contenait de l'arsenite de cuivre. Ses recherches furent donc dirigées de ce côté, et les réactions qu'il employa produisirent la couleur bleue qu'il avait tout d'abord si grandement étonnée. C'était bien du verre de Schiele, et c'était le composé d'arsenic au moyen duquel elle avait été fixée qui semblait avoir provoqué les vomissements de Divine. Cela était-il possible? Il n'en savait rien, et bien que ses expériences ainsi que les faits répondissent affirmativement, il voulut être éclairé à ce sujet. Tout de suite, il partit pour des villes où il avait un ancien camarade, chimiste dans une grande fabrique d'indiennes. Profitant de son dimanche pour se reposer en famille, l'ancien camarade jouait aux boules avec ses enfants dans un jardinet attenant au bâtiment de l'usine, le long des rives du Cailly, aux eaux multicolores. Quand il aperçut Turlure, il vint au-devant de lui, les mains tendues. « Quel bon vent t'amène, mon vieux Turlure ! » « Un renseignement à te demander. Laisse-moi jouer mon coup et je suis à toi. » Le coup joué, ils s'assirent autour d'une petite table rustique sur laquelle était servie une bouteille de bière avec des verres et Turlure put poser sa question à son ami. Vous servez-vous de l'arsenic ou plutôt des produits à base d'arsenic pour la teinture de vos indiennes ? Nous, non. Les autres s'en servent-ils ? Il y a des fabricants qui emploient encore les composés d'arsenic, mais leur nombre a diminué et diminue tous les jours. C'est vieux jeu. Ainsi, l'arséniate de potasse et l'arséniate de soude sont employés comme substitut à la bouse de vache pour le dégagement et la fixation des mordants d'alumine servant à obtenir les rouges d'alizarine. L'arsénite de soude est employée quelquefois mélangée au sel d'alumine pour fixer la fuchsine, les bleus d'aniline. « Et cette couleur verte ?» demanda Turlure en tirant de sa poche un petit morceau de l'étoffe qu'il s'était fait donner par les bonnes de la Vaupalière. Le chimiste regarda un moment l'étoffe. « Est-ce pour acheter une étoffe pareille à celle-là que tu me poses tes questions » dit-il. « Non, mais dois-je conclure de la façon dont tu la regardes et du ton dont tu en parles que j'aurais tort de vouloir faire cette acquisition ?»« Je te crois que tu aurais tort. » « Pourquoi ? Mauvaise étoffe, mauvaise teinture, camelote. » La teinture est obtenue par un composé d'arsenic, n'est-ce pas ? C'est du verre de Schiele qu'on obtient au moyen de la double décomposition de l'acétate de cuivre et de l'arsénite de soude. Les pièces, après avoir été passées dans un bain d'acétate de cuivre et séchées fortement, sont à nouveau traitées par l'arsénite de soude, très alcalin, qui précipite sur le tissu de l'arsénite de cuivre. Après cette opération, les pièces sont lavées et séchées. Et l'arsénite de cuivre est amalgamée avec l'étoffe d'une façon indestructible ? Il doit l'être. Mais il peut aussi, n'est-ce pas, ne pas l'être ? Tout est possible. De sorte que d'une étoffe mal teinte ou mal lavée, en un mot, d'une étoffe qui serait de la camelote comme celle-ci, il peut se dégager des poussières très fines d'acide arsénieux. Sans doute, mais cela n'est pas probable, attendu que les ouvriers qui manutentionneraient une certaine quantité de ces pièces pour les sécher et les plier seraient empoisonnés, puisque chacune de ces pièces doit contenir pour 100 mètres de longueur 2 ou 300 grammes d'acide arsénieux, c'est-à-dire 3 grammes par mètre. Précisément. Et alors, pour une chambre dans laquelle on a employé une centaine de mètres de cette étoffe, en tenture, rideaux, meubles, couvre-pieds, etc., il y a en somme 300 grammes d'acide arsénieux qui, pour une raison ou pour une autre, peuvent se trouver versés chaque jour en quantité plus ou moins grande, ou si l'on aime mieux, plus ou moins petite, dans l'atmosphère que nous respirons, sur nos meubles, sur nos draps, nos serviettes, nos verres. Tu parles de raisons ou d'autres, c'est là ce qu'il faudrait préciser. Pour quelles raisons, je t'en prie, ces 300 grammes d'acide arsénieux se répandraient-ils dans l'atmosphère ? Je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est qu'une domestique qui fait le ménage tous les vendredis de deux chambres tendues de cette étoffe est prise tous les samedis de vomissements et présente les symptômes d'un empoisonnement par l'acide arsénieux. Me diras-tu que les 300 grammes de cet acide, incorporés plus ou moins mal dans cette étoffe qu'elle bat, secoue, brosse, ne sont pas la cause de cet empoisonnement ? Non, bien que j'en doute. Tu ne le dis pas, cela me suffit, et je n'ai pas à chercher ailleurs ce qui cause les malaises de cette domestique. Vous êtes des assassins, vous autres industriels.